Mardi politique, en partenariat avec Libération et l'AFP.
Florent Guignard.
Seconde partie de Mardi politique avec la députée socialiste Delphine Batho, ancienne ministre de l'écologie. Nous sommes ensemble encore pour 20 minutes avec Nathalie Rollin de Libération et Bernard Pellegrin de l'AFP. À peine nommé et déjà contesté, l'arrivée de Manuel Valls à Matignon ne fait pas que des heureux à gauche, sans même attendre l'intervention de François Hollande hier soir. Les deux ministres écologistes du gouvernement Hérault ont claqué la porte. Cécile Duflot, la ministre du Logement, et Pascal Canfin, le ministre du Développement. Pas question d'être sous les ordres d'un Premier ministre nommé Manuel Valls. Pascal Canfin.
Ce n'est pas une question de personne, c'est une question de ligne politique. Aujourd'hui, Manuel Valls incarne une ligne politique qui est ce qu'il a défendu pendant les primaires de la campagne socialiste, qu'il a conclu à moins de 6%. Et moi, je ne souhaite pas que le gouvernement de la France finisse à 6% de popularité.
L'ex-ministre Europe Écologie Les Verts, Pascal Canfin, sur France Inter ce matin. Delphine Batho, est-ce que vous comprenez la décision de Cécile Duflot et Pascal Canfin ?
Non, moi ce qui me frappe, c'est que cette formation politique ne se détermine jamais en fonction des questions d'écologie. C'est-à-dire que quand il y a eu la baisse de 7% du budget de l'écologie, quand il y a eu le recul sur les nitrates et l'intensification des élevages porcins, quand il y a eu l'abandon de la taxe poids lourd, quand il y a eu l'enterrement de tout changement sur la question du diesel, quand il y a eu le report de la loi sur la transition énergétique, quand il y a eu encore beaucoup d'autres décisions, comme par exemple le fait d'exclure les associations qui portent les questions de santé environnementale, sur les perturbateurs endocriniens, sur les pesticides, de les exclure du dialogue social environnemental, tout ça n'a pas entraîné le départ du gouvernement des écologistes. Et ils avaient justifié la nécessité de s'y maintenir. Donc je vois pas le rapport, en fait. Il y a un procès d'intention qui est fait. Il y a une seule question qu'il faut poser. C'est est-ce que le gouvernement de Manuel Valls va rompre justement avec toute cette période d'hésitation, de recul en matière d'écologie pour porter enfin une ambition, notamment sur les questions de transition énergétique, absolument déterminée. C'est ça la vraie question qu'il faut poser quand on est attaché aux valeurs d'écologie.
Bernard Pellegrin de l'AFP.
Donc si des écologistes, des membres de LV, Monsieur Placé, par exemple, et demain au gouvernement de Monsieur Valls, vous en serez contente, vous le féliciterez.
Moi, j'ai toujours, vous m'aviez invité à cette émission début janvier, j'ai toujours souhaité que les Verts restent dans la majorité parlementaire, malgré tout ce que je viens de dire.
Mais pas pour avaler des couleuvres comme celles que vous avez énumérées à l'instant
non,
même.
Non, moi, ce que je souhaite aujourd'hui, c'est ça la vraie... Il y a une question de majorité. Effectivement, moi, je souhaite que la majorité soit large et qu'elle associe Europe Écologie Les Verts. Et puis, il y a une question de fond. Et c'est celle-là, à mon avis, qui est déterminante quand on est, comme moi, attaché aux valeurs d'écologie. C'est qu'est-ce que va faire le gouvernement sur ce sujet-là ? Est-ce qu'on va d'abord garder un grand ministère de l'écologie où la question de l'énergie est dans le même ministère que la question de l'écologie? Première question très importante et assez déterminante.
Apparemment, ensuite, c'est ce vers quoi on s'achemine.
Ensuite, quel est le contenu de la loi de transition énergétique? Est-ce qu'on va arrêter de reculer, de céder face à un certain nombre de lobbies? Est-ce qu'on va enfin assumer, porter cette politique je le redis, est à mon avis une politique de long terme d'abord absolument nécessaire, ensuite qui est un facteur d'amélioration du pouvoir d'achat des Français au travers des économies d'énergie, de création d'emplois, de réussite économique et qui est aussi une carte à jouer dans la France, dans ce qu'est aujourd'hui le paysage de la mondialisation. C'est ça la vraie question à laquelle il faut répondre.
Alors la présence d'Arnaud Montebourg dans le futur gouvernement, est-ce que ce serait... un problème, un obstacle
non,
à cette transition écologique ?
Non, pas du tout.
Bah, il est quand même très attaché au gaz de schiste.
Oui, mais il y a une ligne sur le gaz de schiste qui ne changera pas. Il l'a d'ailleurs reconnu lui-même ce matin.
Oui, mais tout en regrettant que les États-Unis aient pris de l'avance sur l'Europe.
Non, il dit il y a un dumping environnemental des États-Unis sur la question du coût de l'énergie. Ça, c'est un constat objectif. Mais il n'y aura pas, on n'imposera pas de toute façon les gaz de schiste. Et tant mieux si Arnaud Montebourg renonce lui-même à ce qu'il répétait régulièrement sur faut arrêter avec ce sujet-là. Et je pense, enfin, votre question, c'était la place d'Arnaud Montebourg au gouvernement. Moi, je pense qu'il y a sa place.
Plus largement, voilà. Arnaud Montebourg qui prône une grande politique industrielle, est-ce qu'une grande politique industrielle est compatible avec une grande politique écologique en France ?
Ben, il serait temps de comprendre qu'une grande politique industrielle passe par ce qu'on appelle, excusez-moi des termes, un changement de matrice productive. C'est-à-dire qu'on a aujourd'hui un appareil productif industriel qui est vieillissant, qui n'est pas assez moderne. On peut faire, par exemple, 43% d'économies d'énergie dans la production industrielle en France. Donc, ce qu'il faut aujourd'hui, c'est un plan de modernisation de l'industrie française, notamment sur les questions d'énergie et aussi d'économie circulaire, qui me paraît être un levier déterminant de réussite industrielle pour la France dans l'avenir. C'est ça qu'il faut faire. Et ce serait bien, si c'est Arnaud Montebourg qui en est chargé, qu'il le fasse davantage et qu'il arrête effectivement de remettre sur la table tous les matins ce sujet des gaz de schiste.
Vous ne sentez pas un peu seul au sein du Parti Socialiste sur les thèses que vous venez de développer à ce micro,
qui sont
très intéressantes?
Je ne me sens pas du tout seul. En fait, je pense que
j'ai le sentiment que le discours que vous développez, on l'entend très, très rarement dans la bouche des responsables socialistes en général.
Et en tout cas, on ne l'entend pas beaucoup à l'Élysée.
Et peu dans la bouche de Manuel Valls.
Vous voulez dire par rapport à la question écologique?
Tout ce que vous venez d'évoquer, qui était fort intéressant et qui dessine une vraie politique, sans vouloir vous flatter, qui dessine une vraie politique environnementale.
Oui, c'est un des problèmes auxquels j'ai été confrontée. Et je pense que ça renvoie à ce que je disais sur la confrontation qu'il y a aujourd'hui entre des visions du passé et des visions d'avenir. Et c'est vrai qu'il y a une difficulté à appréhender cette question de l'écologie, de la raréfaction des ressources, du réchauffement climatique, comme quelque chose qui est central dans notre orientation de politique économique et pas juste, vous voyez, dans un petit coin, une politique environnementale. Oui, il y a une difficulté d'appréhender ça et moi, ça me paraît absolument fondamental.
La députée socialiste Delphine Batho est l'invitée de Mardi Politique. On va écouter, Delphine Batho, un autre extrait de l'intervention de François Hollande hier soir. Hein, on l'a bien compris, le cap du redressement est maintenu. Mais François Hollande espère bien un peu de mansuétude de la part de Bruxelles.
Le gouvernement aura aussi à convaincre l'Europe que cette contribution de la France à la compétitivité, à la croissance, doit être prise en compte dans le respect de nos engagements. Car ma conviction est faite, renforcer l'économie française, c'est la meilleure façon de réorienter l'Europe.
Voilà, 2 mois des Européennes, François Hollande remet au premier plan la réorientation de l'Europe. C'était un des grands axes de sa campagne présidentielle en 2012. Et on l'avait un peu oublié quand même, cette réorientation de l'Europe. Il a des chances de faire plier les conservateurs européens, François Hollande?
Mais je pense que ce qui réveille un peu les visions sur cette question-là, c'est ce qu'est en train d'essayer Matteo Renzi
en Italie.
C'est absolument... Qu'est-ce qu'on va faire? On va regarder, la France va regarder le gouvernement italien se battre seul. Moi, je pense qu'on doit être partie prenante de cette bataille pour la réorientation de la politique macroéconomique européenne. C'est absolument fondamental, c'est absolument décisif. Et je parlais, vous voyez, de politique de relance par des investissements de long terme. Cette question de sortir les investissements de long terme du calcul des déficits me paraît de longue date, d'ailleurs, une question absolument fondamentale. La preuve est faite que les choix d'austérité aboutissent à une catastrophe économique et en même temps à une catastrophe politique. C'est-à-dire que le risque, c'est qu'on ait pour la première fois de l'histoire un Parlement européen, anti-européen, nationaliste, lors des prochaines élections européennes.
Donc, à cause des politiques d'austérité, en même temps, François Hollande l'a dit, il y a 50 milliards d'économies à faire 2017 et il n'en déviera pas. C'est de l'austérité, 50 milliards d'économies.
Oui, mais moi, je suis pas d'accord pour dire comme ça. Il faut faire des... Qu'il faille réduire les... Je suis pour une politique sérieuse, moi. Je pense qu'il y a un problème de déficit, qu'il y a un problème de dette publique. Ce que je dis, c'est qu'il y a des politiques sur lesquelles on pourrait investir, qui seront plus efficaces ensuite pour réduire la dette et pour réduire les déficits, que de faire, voyez, des coupes au rabot où on coupe un petit peu partout, sans faire de choix politiques, sans dire voilà les nouvelles politiques sur lesquelles on met le paquet, voilà celles qu'on arrête. C'est ça la vraie question.
Bernard Pellegrin, de l'AFP.
Mais pour revenir à l'Europe. Ces élections sont dans un mois. Aujourd'hui, la France est fondamentalement, enfin, les Français sont fondamentalement anti-européens, je veux dire. L'Europe est vue comme un mal.
Je crois pas, moi, que les Français sont
par la plupart des gens. C'est ce qui ressort des sondages et déclarations.
Non, ils sont contre l'austérité européenne. Ils sont contre la politique actuelle de l'Europe. Et ça, ils ont raison. mais ils sont pas anti-européens au point de départ. Ça, je ne crois pas ça.
Non, j'ai pas dit ça. J'ai dit que aujourd'hui, les Français, si on leur demande leur avis sur l'Europe, ils disent que c'est plutôt un mal qu'un bien. Donc, vous allez avoir pas mal de difficultés à obtenir des nuances dans l'opinion publique à un mois de l'élection, des élections européennes, pour que les gens dissocient ce modèle européen qui leur paraît ne pas fonctionner et l'austérité.
Mais c'est exactement ce que je dénonce, en fait. C'est-à-dire qu'à force, les politiques d'austérité conduisent à un rejet de l'Europe, c'est-à-dire du principe même de la construction européenne. Et on assiste à des replis nationalistes. L'enjeu des élections européennes, ça va être quelle va être la majorité au Parlement européen. Est-ce qu'il y a une majorité de gauche écologiste pour une réorientation de l'Europe ou est-ce qu'il y a une majorité libérale ou est-ce qu'il y a une majorité nationaliste? Ça va être ça, le débat des élections européennes.
Nathalie Rollin, de Libération.
Alors pour le moment, c'est plutôt la Commission de Bruxelles qui met la pression sur le gouvernement en disant qu'il faut absolument respecter ses engagements en matière de réduction des déficits publics et de dettes. Donc les politiques d'austérité ont tendance à revenir plutôt sur le devant de la scène plutôt qu'à s'en éloigner. Donc par rapport à ça, j'aurais aimé savoir si vous prenez une alliance des pays du Sud contre l'Allemagne, puisque les choses se présentent quand même largement de cette façon-là, ou si vous pensez qu'il suffira de convaincre la Commission d'être plus laxiste.
Moi, j'ai été la première à le dire. Je suis en parfait accord avec Matteo Renzi quand il dit que il parle du pacte de stupidité à propos de la question des déficits. En plus, il y a un contexte économique qui a évolué, pas dans le bon sens. Donc oui, je pense que cette question-là est posée, même si je ne suis pas pour l'irresponsabilité budgétaire, j'ai pas le culte de la dette et des déficits, et je suis pour assumer une politique de gauche sérieuse en matière de dépenses publiques. Il y a aussi la question fiscale, qui a eu des conséquences électorales catastrophiques. Un certain nombre de mesures, comme le gel du barème de l'impôt sur le revenu, la fiscalisation de la majoration pour enfants des retraités, faut voir les conséquences sur le terrain.
Et la défiscalisation des heures supplémentaires,
vous mettez ça aussi dans votre liste ? Oui, mais il faut voir les conséquences en termes de perte de pouvoir d'achat pour les retraités.
Est-ce que vous mettez dans votre liste le retour sur la défiscalisation des heures supplémentaires ?
C'est vrai que ça a été la première chose dont on a entendu parler dans l'électorat populaire.
C'est une des premières mesures, d'ailleurs, prises par François Hollande dès son arrivée.
Oui, mais le problème, c'est qu'après, il y en a d'autres qui se sont ajoutés. Et en particulier pour les retraités, moi, j'ai vu des exemples concrets où les gens, ils perdent l'équivalent d'un mois de salaire. Vous voyez, pas 3 ou 5... Ils disent, moi, je suis prêt à faire des efforts. Je suis prêt à participer à l'effort collectif, à ce qu'on m'enlève 3 ou 5% de mes revenus. Mais qu'on m'enlève l'équivalent d'un mois de salaire... voilà, il y a quelque chose de pas juste.
Mais il n'y a jamais eu personne pour dire au gouvernement, à François Hollande, regardez, il y a des cas dramatiques.
Si, bien sûr.
Et alors, ils n'entendent pas, ils ne veulent pas écouter?
Là, je crois qu'on revient à la thématique de Madame Bateau.
On revient à la question initiale.
Alors, sans parler de ces européennes qui auront lieu donc le 25 mai prochain en France, les sondages donnent le Front National devant le Parti Socialiste. Mmh. C'est inquiétant pour vous, à 2 mois des élections. Est-ce que la nomination de Manuel Valls peut créer un électrochoc, selon vous, auprès de l'électorat de gauche qui reviendra vers vous ?
Écoutez, si on a les moyens de remobiliser l'électorat de gauche, je pense que ça ne se fera pas en quelques semaines. Donc, faut essayer de le faire, évidemment, pour les élections européennes. Mais là, le travail que va engager le nouveau gouvernement n'est pas contingenté par les élections européennes et son horizon... C'est pas l'horizon des élections européennes. L'enjeu des élections européennes, il est autre. Il est la couleur du Parlement européen et des députés qui vont être envoyés au Parlement européen et pour défendre quelle politique.
Oui, mais si vous voulez un Parlement socialiste et une commission dirigée par un socialiste, en l'occurrence Martin Schulz, il va falloir que les Français votent socialiste.
Oui. Oui, non mais il y a une question. Vous avez raison. Il y a une question éminente sur quelle est la tonalité de la campagne du Parti socialiste pour les élections européennes. Est-ce que on promeut des listes combatives avec des nouvelles générations, voilà, avec une vraie ambition? Ça, c'est une question parfaitement légitime. Ce que je dis, c'est que l'horizon du nouveau gouvernement n'est pas contingenté par les élections européennes.
Vous voulez dire qu'on a déjà fait une croix sur ces élections
non,
européennes
qu'elles
sont déjà
perdues ? Non, c'est pas du tout ce que je veux dire. C'est que l'horizon de l'action du gouvernement ne s'arrête pas à la fin du mois de mai.
Au-delà du mois de mai, on a bien compris.
C'est ça que je veux dire. Le calendrier est extrêmement court. Après, il y a une autre question qui est beaucoup plus lourde. C'est comment lutter contre la montée du Front National.
Voilà, c'est la question que j'allais vous poser.
On y vient.
Il y a plus de 10 mairies qui ont basculé du côté du Front National. Ils sont à 1200, 1500 conseillers municipaux. Enfin bon, ils ont fait un véritable décollage. Et si dans un mois et demi, deux mois, ils sont la première force aux élections européennes, en termes de positionnement politique, ils sont incontournables. Comment vous voyez les choses ?
D'abord, je suis pas vraiment surprise. Ensuite, je pense que la question qui est posée pour la gauche, c'est de comprendre que le Front républicain est une solution qui, même si elle peut s'avérer nécessaire, est une solution en fait complètement dépassée. C'est-à-dire cette idée qu'on arrivera à combattre le Front National en faisant appel aux réflexes républicains de la société ne fonctionne plus si on n'est pas à l'écoute des exigences populaires sur un certain nombre de sujets. Donc moi, pour moi, la façon dont la gauche doit combattre la montée du Front National, c'est tout simplement de proposer un espoir, de proposer un changement, d'offrir une perspective d'avenir au pays. Si c'est simplement de dire « c'est pas bien de voter Front National », on n'y arrivera pas. Et je pense que c'est ça l'enjeu du moment dans lequel on est. C'est de comprendre que la réponse, c'est pas simplement de dénoncer, de combattre, même si c'est nécessaire, même s'il faut le faire, même s'il faut faire barrage quand le Front National est en mesure de l'emporter quelque part, mais c'est d'ouvrir une perspective. Voilà, on peut pas être, la gauche, elle peut pas être dans la gestion sans porter un idéal, sans porter des valeurs, sans porter une vision d'avenir. Sinon, ça donne le résultat qu'on a
connu. D'anciens cégétistes deviennent maires Front National, ça pose pas un
problème. C'est très préoccupant. C'est évidemment très préoccupant, bien sûr.
Dans votre parcours militant, vous êtes passé par SOS Racisme.
Ouais.
Vous combattiez à l'époque le Front National de manière un petit peu incantatoire. Est-ce que vous êtes revenu là-dessus, au fond ?
Non, je vois pas pourquoi vous dites que c'était incantatoire. Moi, ça fait partie effectivement
La philosophie de SOS Racisme, c'est le Front Républicain que vous critiquez aujourd'hui, par exemple.
Non, la philosophie de SOS Racisme, ça a d'abord été de dire « touche pas à mon pote » et de dire « on est fiers d'être dans un pays où il y a des gens de toutes les couleurs et on est fiers des valeurs de fraternité ». C'était ça le badge « touche pas à mon pote ». Donc ça n'a pas été une réponse justement que négative dans le sens de dénoncer des idées nauséabondes. Ça a été de porter une vision positive aussi du métissage de la France. Ça a été utile pour aider à ce que la droite, à l'époque, ne bascule pas dans un système d'alliance avec le Front National. Ça a permis des grandes mobilisations de la jeunesse, mais c'est pas suffisant. Parce qu'à un moment donné, la question qui est posée, c'est celle de la traduction politique, c'est celle de la crise politique qui nourrit aussi la montée du Front National.
Est-ce que vous liez la nomination de Manuel Valls au score élevé obtenu par le Front National à ses municipales ? Est-ce que Manuel Valls est une réponse aussi au Front National ?
Je pense qu'il a la volonté de combattre l'extrême droite, comme nous tous, mais non, je ne fais pas ce lien direct. Non.
Dernière question, Delphine Matteau, puisqu'on arrive à la fin de cette émission et puisqu'on parlait du Front National, on en a beaucoup parlé avant les municipales, dans l'entre-deux-tours des municipales, on continue d'en parler aujourd'hui. Est-ce que vous faites partie de ceux qui disent on accorde un peu trop de place, notamment dans les médias, au Front National ?
Je ne pense pas que c'est en cassant le thermomètre qu'on fait baisser la fièvre. Donc ça me paraît un débat secondaire par rapport aux réalités qu'on constate sur le terrain.
Merci Delphine Bateau. C'est la fin de Mardi Politique. Cette émission a été réalisée par Mathias Golshani avec le très précieux soutien d'Audrey Yatoni. Très bonne soirée à tous.